da 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 da.
Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă propun pentru astăzi un film, Rabia, primul lungmetraj al regizoarei germane Mareike Engelhardt, un film care pune în scenă îndoctrinarea ideologică a tinerelor femei occidentale plecate în Siria, dar și viața lor în aceste adevărate pușcării care se numesc Madafa, casele ținute de Daesh. Un film despre modul de funcționare al îndoctrinării, în care Megan Northam o joacă pe Jessica. Atrasă de promisiunile unei vieți noi, Jessica, o tânără franțuzoaică de 19 ani, pleacă în Siria pentru a se alătura organizației teroriste Daesh. Ajunsă la Raqqa, este dusă într-o casă destinată viitoarelor soții ale combatanților și devine rapid prizoniera lui Madame, directoarea carismatică care conduce locul cu o mână de fier. Un film inspirat din fapte reale.
Qu'est-ce que tu fous? Je t'ai envoyé 40 messages.
Oui, bah je bosserai.
Demain, 6 heures à Orly. Akram m'a envoyé les billets.
Welcome, sisters.
Bonjour. Salam alaikum, Jessica.
You will get them when you leave the house.
Installez-vous ici, c'est le coin des Françaises.
Vous l'avez déjà vu,
Madame?
Ouais.
Si Allah il devait avoir une femme, ce serait elle.
You have accomplished your hijra by joining our mujahideen in this holy bath. You came here to share your life with them. Your true family is here now. Jessica, je veux savoir pourquoi toi, tu es là.
Je suis partie parce que là-bas, on m'écoute pas. Là-bas, j'existe pas.
Salam alaikum, ya akhi. Je te présente Omaravia, 19 ans. Elle est pieuse et très serviable.
Tu ne l'interromps pas, tu ne le contredis pas.
T'es ma récompense.
Arrête.
Qu'est-ce qui t'arrive, Omaravia? Est-ce que tu aurais oublié les règles?
Tu veux rentrer en France? Ici, c'est un plus grand destin qui t'attend. Tu sais ce qu'elle a fait aux jumelles? Tu crois que tu peux manigancer derrière mon dos sans conséquence?
On s'est trompé. Faut qu'on parte, Jessica.
Mareike Engelhardt a făcut studii de literatură, de istoria artei și psihologie, dar și de dans contemporan la Berlin, Londra și New York. A colaborat cu coregrafi în spectacole multimedia și a realizat mai multe scurtmetraje de ficțiune. Continuă să alterneze ficțiunea și formele experimentale și a lucrat ca asistentă de regie pentru regizori ca Roman Polanski, Volker Schlöndorff, înainte de a intra la faimoasa școală la FEMIS. Am rugat-o să ne spună, pentru început, cum a apărut ideea filmului Rabia.
J'étais très très étonnée dans une incompréhension totale face à des départs par milliers de jeunes gens de tous les coins du monde autour de 2013, 14, 15 qui décidaient de quitter nos démocraties avec les libertés qui leur sont offertes pour soit faire la guerre, soit faire le ménage et défendre les enfants pour les hommes qui font la guerre en Syrie, dans un pays que la plupart d'entre eux ne savaient peut-être même pas pointer sur la carte avant d'y aller, ne connaissant rarement ni le Coran, ni la langue qu'on parle sur place. Donc je ne comprenais pas comment c'était possible et je commençais à m'intéresser aux stratégies d'embrigadement de l'État islamique. Comment ils font pour convaincre un si grand nombre de jeunes de venir. Et comme les questions d'embrigadement, d'idéologie, de lavage de cerveau sont des questions qui m'intéressent depuis toujours, c'était un sujet qui le plus, je me suis documentée, le plus m'a passionnée, notamment à partir du moment où je me suis plus focalisée sur les femmes, parce que j'ai remarqué qu'on parlait beaucoup des hommes dans les médias, mais pas du tout des femmes, ou très 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 peu. Et je voulais savoir si c'est parce qu'il n'y a pas de femmes, ou juste parce qu'on ne sait pas ce qu'elles font là-bas. Et je me suis rendu compte qu'il avait autant de femmes que d'hommes, que c'était très très organisé, leur venue et leur place à l'intérieur de ce système, que comme dans d'autres systèmes totalitaires, on les réduisait à être des machines à enfanter, on les enfermait. Ouais, donc on réduit la femme à son corps, à cette fonction-là de reproduction. Et je trouvais passionnant que c'était une parallèle à d'autres dictatures, d'autres moments dans l'histoire où par exemple, quand Hitler est venu au pouvoir, une des premières choses qu'il faisait, c'était aussi de dire aux femmes, arrêtez de travailler, vous rentrez à la maison, vous faites le ménage, vous faites à manger, et surtout vous nous faites plein de bébés, de préférence des garçons. Et donc je me suis dit, ah tiens, je vais continuer à me renseigner sur ces maisons de femmes dans lesquelles on les a enfermées, comment est-ce qu'elles étaient organisées, qui était en tête de ça. Et je me suis rendu compte que c'était une femme qui était en tête de ça, c'était une femme qui a pensé ce système de soumission des autres femmes, et c'était pas un homme, certes à l'intérieur d'un système d'hommes, mais quand même. Et donc il y avait aussi des femmes au pouvoir et des femmes qui soumettaient d'autres femmes. Et donc la question de la violence féminine venait au centre de mon travail, et petit à petit cette histoire s'est cristallisée autour de cette maison, et donc l'envie de raconter le destin de deux jeunes femmes qui se retrouvent dans une de ces maisons et qui prennent des chemins, qui font des choix très différents à l'intérieur de ce système.
Le film commence avec ces deux jeunes femmes françaises. Une d'entre elles travaille dans une maison de retraite. Ces deux jeunes femmes décident de partir en Syrie pour rencontrer leur futur mari. Une, c'est la première femme censée faire des enfants. L'autre, c'est la seconde femme censée travailler. C'est deux jeunes de 19 ans, un peu naïves, prennent l'avion pour la première fois dans leur vie. On a vraiment l'impression dans cette séquence qu'ils sont déjà au paradis, ce fameux paradis qu'on promet aux guerriers, qu'on promettait aux guerriers en Syrie, et avec les 75 vierges qui les attendaient là-bas. Sauf qu'une fois arrivés en Syrie, voilà, les choses se corsent un peu, et en fait, on se rend compte qu'elles sont quasiment dans une sorte de prison, une maison, comme une maison close, quelque part, et cette madame qui dirige un système de racolage. Est-ce que c'est juste la religion? Est-ce que c'est une forme de rébellion? Est-ce que c'est une quête d'une vie meilleure?
En fait, il n'y a pas une réponse à cette question. C'est pour ça que le film refuse aussi de donner une réponse à cette question qu'évidemment nous nous posons tous. Mais le plus que j'ai discuté avec des jeunes femmes qui sont parties, qui sont revenues, le plus je me suis rendu compte que chaque femme avait des raisons différentes. Il y avait des raisons conscientes, des raisons plus inconscientes. Parfois, elle pensait être partie pour une raison, et en fait, quand je creusais un tout petit peu, j'ai compris que c'était pas du tout à cause de ça qu'elle est partie, mais bien d'autres choses. Et c'est très très souvent, il n'y avait pas une raison, mais un enchaînement d'événements dans une vie qui a fait que, à la fin de cet enchaînement, elles ont pris la décision de partir. Donc c'est tellement plus complexe qu'on le croit, que c'était pour moi pas une idée intéressante de simplifier dans un film en faisant semblant qu'il y a une seule raison pour laquelle ces femmes partent. Et donc j'ai laissé cette question un tout petit peu ouverte à la frustration de quelques spectateurs. Mais je pense que c'est plus intéressant de se poser cette question que de donner que des réponses, parce que c'est une question qu'il faut qu'on continue à se poser. Qu'est-ce qu'on offre à la jeunesse, et pas que en France? Il y avait autant d'Allemands qui sont partis, des Anglaises, des Norvégiennes. Bah, voilà, donc les femmes venaient de tous les coins du monde. C'était pas du tout un phénomène français, hein. Qu'est-ce qu'on offre à notre jeunesse pour qu'elle ne nous plantons pas dans le piège de ce genre de secte extrémiste, parce que c'est pas du tout la religion. Cette jeune Française, comme les autres, Il y a une grande partie qui sont des convertis, donc une très très grande partie connaissent rien à l'islam, n'ont jamais lu le Coran, ne parlent pas l'arabe. Donc ça n'a absolument rien à voir avec cette religion en particulier. Donc c'est une secte qui se cache derrière cette idéologie religieuse qu'elle utilise pour laver les cerveaux de ces jeunes et les mettre au service de leur idéologie meurtrière, mais ça n'a rien à voir avec la vraie religion qui est l'islam. Donc ça, c'était vraiment important pour moi de montrer. C'est pour ça que dans le film, je le filme d'une manière beaucoup plus universelle et générale, et je me concentre très très peu sur la religion, seulement quand elle sert d'outil d'embrigadement. Ce qui est le seul but. Et donc je pense que ce qui est important pour vous répondre quand même, pour donner des débuts de réponse, c'est que quand on est jeune et on a vécu des traumatismes et qu'il y a une réelle souffrance, une situation dans laquelle on a besoin de fuir, je pense que l'État islamique savait exactement comment parler à ce genre de jeunes personnes qui vivent dans une souffrance permanente dans leur vie de tous les jours. Ça a souvent été lié, là il y a vraiment une parallèle, que 60% des jeunes femmes qui sont parties étaient victimes de violences et très souvent de violences sexuelles, donc un mal-être très très physique lié au corps, ce qui personnellement me paraît logique aussi, parce que l'islam, avec le voile, il y a quelque chose où on peut disparaître, on peut protéger le corps, on peut le faire disparaître. Et elle se sentait en sécurité, bizarrement, en allant là-bas, parce qu'on leur promettait que les hommes là-bas sont beaucoup plus pieux, les respectent plus, parce qu'ils doivent répondre à Dieu, ils vont pas les tromper avec leurs meilleures copines, parce qu'il y a des règles dans l'islam et les hommes doivent s'y tenir, tout comme les femmes. Sauf qu'une fois sur place, les hommes qu'elles ont rencontrés, pour une très très grande partie, étaient des hommes qui, eux aussi, allaient très très mal, et souvent étaient des hommes extrêmement violents, qui les violaient, qui les battaient, et donc la violence faisait partie de leur quotidien, chose qu'elles ne savaient pas en partant. Donc il faut vraiment faire aussi la différence entre ce qu'elles savent, ce qu'elles ne savaient pas. Mais je pense que la réelle motivation, c'était cette envie qu'on a tous, je pense, de donner un sens à notre existence, d'appartenir à quelque chose peut-être de plus grand que nous, de trouver une famille, de trouver de l'amour, du respect, d'être vu. Je pense que ça aussi, c'était très, très important. C'était aussi pour ça que c'était très facile pour moi de parler à ces femmes, parce qu'elles avaient très envie de parler, elles avaient envie d'être écoutées, d'être entendues, parce que c'est quelque chose qu'elles ne connaissent pas dans leur quotidien.
Votre film soulève aussi un autre problème, la violence faite aux femmes, mais aussi comment les femmes deviennent tortionnaires. Parler des femmes bourreaux, c'est un peu complexe.
Je pense que la violence, elle n'est pas genrée, elle est liée à la condition dans laquelle se trouve l'humain. Et donc, si l'humain a du pouvoir, et s'il peut exercer ce pouvoir, il peut abuser de ce pouvoir, peu importe si c'est un homme ou si c'est une femme. Et je pense que le cercle de la violence, qui est très très connu, de quand on a reçu la violence, c'est plus probable quand on a été victime, c'est plus probable qu'on devient bourreau que si on n'a jamais été victime de sa vie. Ce cercle-là, j'essaie de le montrer dans le film, pour montrer que les femmes aussi peuvent être violentes, et peuvent être aussi violentes que les hommes. Et ça a vraiment été le cas sur place. Quand vous regardez les interviews avec des femmes yézidis, par exemple, elles racontent que très souvent les femmes étaient pires que leurs maris, et les maris les violaient quotidiennement, mais très souvent les femmes les préparaient, les lavaient, les maquillaient pour les envoyer chez le mari. Il y en avait aussi qui les ont tués. Il y avait un cas très récemment en Allemagne d'une femme qui a enchaîné une mère yézidi avec sa fille devant la porte de sa maison et les a laissés crever dans le soleil. Donc il y avait des femmes horribles aussi là-bas, et je pense que c'est important de le dire aussi, de le montrer aussi, pour ne pas rester dans cette pensée très binaire de des hommes qui ont fait tout le mal et des femmes qui sont naïves, un peu bêtes, qui savaient pas où elles allaient parce qu'elles sont pas, elles sont pas aussi intelligentes, elles sont pas aussi et je pense même d'un point de vue féministe, c'est important de changer un tout petit peu cette perspective.
D'ailleurs, cette madame qui dirige cette Madafa, ça s'appelle, oui. C'est ça, cette Madafa, qui est cette maison dans laquelle logent ces jeunes femmes qui viennent de l'Occident, qui se préparent à rejoindre leur futur mari guerrier. Cette dame, elle existe vraiment?
Oui, c'est une femme qui est connue et qui est en fuite actuellement, mais on a porté plainte contre elle. Elle est recherchée. C'est intéressant parce que c'est elle qui a mis en place ce système de trahison, de torture, de un peu comme sous la Stasi. Et moi, je pensais jusqu'à la fin d'avoir inventé comme seul élément que j'aurais inventé dans le film l'idée qu'elle avait une assistante qui devient comme elle. Et finalement, j'ai appris qu'elle n'en avait pas qu'une, mais qu'elle en avait quatre, qu'elle avait recrutées en fonction de leur langue. Et donc, elle a essayé de trouver quatre filles qui parlaient, pour couvrir toutes les langues qui ont été parlées dans cette maison, pour qu'il y a toujours une fille qui peut comprendre les autres et qui peut rapporter qui se tient pas aux règles, qui aurait dit quelque chose de mal contre le système, et donc un système de dénonciation et de punition qui allait très souvent jusqu'à la mort, en fait, parce que dans mon film j'ai décidé pour qu'on puisse quand même le regarder, de ne pas montrer toute la violence et tout l'horreur. Donc je suis à 20-30% de la réalité sur place pour que ça reste regardable.
Vous avez fait un vrai travail de documentation. Qui vous a aidé? Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de l'équipe, peut-être de la distribution du film, puis peut-être où vous avez fait le tournage, les endroits? J'imagine que vous n'avez pas filmé en Syrie.
Oui. Alors, ceux qui m'ont aidé le plus, c'était deux journalistes, Céline Martelet et Edith Bouvier, qui, elle, depuis des années, travaille sur le djihad féminin et qui connaissait une quarantaine de jeunes femmes qui étaient en Syrie, certaines qui sont revenues, certaines qui étaient encore sur place à l'époque, peut-être quelques-unes qui le sont encore dans les camps. Et elles m'ont mis en contact avec des jeunes femmes revenues avec qui j'ai pu parler. Donc ça, c'était d'une aide extrêmement précieuse. Et donc pendant deux, trois ans, j'ai pu en même temps écrire et rassembler ces témoignages. Donc évidemment, la parole de ces jeunes femmes qui ont eu le courage et l'envie de parler m'a aidée pour écrire. Donc le film est entièrement basé sur leurs histoires. Et après, dans un autre temps, pour le tournage, il y en avait une de ces filles qui est venue même sur le tournage nous aider avec les gestes. On avait un jeune Syrien qui avait fait des beaux-arts, qui est venu nous aider pour le décor sur place pour que ça soit le plus crédible possible. Parce qu'on a tourné dans une ancienne usine à tabac à Sarlat, France Tabac. qui est fermée maintenant, mais qui a été un peu grâce à notre tournage aussi, je crois, transformée en studio de cinéma. Et pour moi, c'était important cette architecture d'usine pour transmettre cette idée d'une usine à procréation, d'une certaine manière. Les extérieurs, on les a tournés en Jordanie, à une heure de la frontière syrienne, parce que c'était à l'époque, et je pense encore aujourd'hui, l'endroit le plus sûr pour tourner. La Jordanie est un pays où il y a beaucoup de tournages, donc ils ont des super techniciens, vraiment excellents, et on était très bien accueillis, ça s'est très très bien passé. Et on était, en termes de paysage, vraiment, c'est la même architecture, c'est les mêmes couleurs de lumière, de sable, et donc on a fait quelques allers-retours pour ramener des objets trouvés sur les marchés en Jordanie, par exemple, pour les mettre dans le décor, dans l'usine à Sarlat. Et puis l'équipe d'écho d'Anne Bevan et son équipe ont fait un travail formidable pour lier l'intérieur de la maison et l'extérieur de la maison qui était en Jordanie, qui n'est donc pas le même bâtiment, pour travailler notamment les entrées, les sorties, les portes, les fenêtres, pour que les deux bâtiments matchent et racontent ce que j'avais envie de raconter. Donc cette très jolie façade devant avec les petites escaliers comme une église et de derrière on a l'impression que c'est une prison et comme vous avez dit au début c'était vraiment à la fois une auberge de jeunesse et une prison et une marché à femmes enfin c'était un lieu très particulier très original que je trouvais passionnant dramatiquement aussi parce qu'à l'intérieur en fait les femmes qui arrivent très souvent en étant vierges, elles rencontrent lors des séances de speed dating leur mari, elles se marient, elles tombent tout de suite enceintes, donc elles passent tout de suite de vierge à mère, au statut de mère, puis à veuve, parce que leur mari très souvent meurt dans la guerre, elles reviennent dans la maison pour se remarier, et donc en très très peu de temps, en l'espace de 1 ou 2 ans, elles ont traversé quasiment toute une vie de femme pour laquelle ça nous prend 10, 20 ans, 30, 40, même si on inclut la mort pour vivre tout ça.
Quelques rôles sont très 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 durs à assumer, j'imagine. Quel type de médiation vous avez fait ? Peut-être pour certaines, le sujet était important également.
Alors les comédiennes principales, Lubna Azabal notamment, c'est quelqu'un de très engagé, très politique, qui choisit vraiment ses films en fonction de ce qu'ils défendent. Et elle connaissait bien Oumadan, donc cette Marocaine, avant que je lui propose le rôle. Et elle a fait un travail vraiment en profondeur de documentation, elle aussi, pour aller chercher des vidéos de cette femme, pour l'avoir parlé, pour l'avoir dans sa maison. Et donc beaucoup de ses tics, de ses manières ont influencé son jeu, je pense.
Ses lunettes.
Oui, exactement. Donc ça, c'était vraiment très important pour Lubna, qui se prépare énormément. Megan Northam, qui joue Rabia, était moins préparée dans le sens où elle avait moins envie d'être au courant de tout ce qui se passait sur place, aussi parce que son personnage était moins au courant. Et donc je pense qu'elle avait envie de garder en partie cette naïveté en arrivant dans cet univers-là, pour rester au plus proche de son personnage et pour vivre, et je trouve que ça fonctionnait très bien, de manière peut-être plus violente et instinctive, les moments de bascule qu'on voit dans le film où elle tombe de plus en plus profondément dans le piège de madame et à l'intérieur de ce système. Et Natasha Krieff, qui joue sa meilleure amie, pour moi c'était the love interest, c'est le personnage qui prend le plus de distance par rapport à ce qu'elle fait, donc je pense que c'est le personnage avec lequel le spectateur peut le plus facilement s'identifier, et c'est le personnage qui amène l'humanité, de la douceur, et donc je les ai vraiment composés en triangle comme ça pour fonctionner ensemble. Pas comme un couple, mais comme un trouble d'une certaine manière.
Quel type de discussion vous avez eu avec toute l'équipe pendant le tournage ? Parce que j'imagine quand on fait ce genre de film, on a envie de reconstruire le monde, on a envie de changer quelque chose.
Je pense que tout le monde était... c'était un tournage très dur pendant l'hiver. On était enfermés dans cette usine du matin au soir. On voyait très peu la lumière du jour. Et vous pouvez imaginer qu'avec ce sujet-là, c'était très, très dur. Donc en sortant des journées de tournage, j'avoue que la plupart de l'équipe est allée soit danser, soit manger des huîtres sur le marché, soit s'amuser. Mais vraiment, il y avait un besoin de se défouler et de complètement oublier le sujet chez tout le monde. Et je pense que je l'aurais eu aussi si j'avais eu le temps pour ce genre de choses. Mais il fallait toujours préparer le lendemain. Donc c'était très, très studieux. Donc les discussions que j'avais avec l'équipe se passaient principalement en amont, donc pendant la préparation du film, où j'essayais un maximum de partager des podcasts sur le sujet, des articles à tout le monde, un peu spécifiquement en fonction de leur poste, à la déco des images que j'avais trouvées dans des documentaires, dans les films références que j'aimais. Avec ma chef-op, on partait plus dans les références visuelles, de peinture chez Anselm Kiefer, chez Hieronymus Bosch, par exemple, pour cette, ce que vous disiez au début, ce voyage du paradis à l'enfer que le film essaye de retracer visuellement en choisissant des couleurs liées au paradis, donc bleu clair, rose, jaune pour les costumes aussi, qui au fur et à mesure disparaissent dans le film et toutes les couleurs deviennent plus sombres, plus marron, comme la terre brûlée.
Quand cette vague de départ des jeunes femmes européennes a commencé, la question se posait, est-ce qu'on peut les faire revenir? Est-ce qu'on peut les réinsérer? Mais aujourd'hui, la situation est encore plus compliquée parce que ces femmes, si elles sont encore en vie, on ne sait pas si elles ont envie de revenir. Peut-être certaines, oui. Mais qu'est-ce qu'on fait avec elles? Et qu'est-ce qu'on fait avec leurs enfants qui sont nés là-bas?
Quand j'ai présenté le film en Allemagne, j'ai été très choquée parce que j'ai parlé avec pas mal de personnes qui travaillent dans la déradicalisation, donc dans des associations qui s'occupent de familles, soit de gens qui sont revenus, soit de gens qui veulent partir. Et ils m'ont dit qu'aujourd'hui, ils ont plus de travail qu'en 2014 et 2015. Donc il y a plus de jeunes qui se radicalisent, qu'il y a plus de jeunes qui sont en danger. Donc c'est vrai que dans les médias, on en parle moins. Mais je pense que le danger, en vrai, il est tout aussi grand qu'à l'époque, sinon plus grand. Donc ça pour commencer, et ça, c'est pas rassurant. Par rapport à votre question, qu'est-ce qu'on fait avec les femmes, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants, je pense, pour moi, la réponse, elle est très, très claire. Il faut rapatrier toutes les enfants et toutes les femmes françaises, parce que je pense qu'un pays qui très régulièrement revendique que toutes les immigrés qui sont criminels doivent être expulsés, ne peut pas dire, mais nous, nos criminels de guerre, on vous les laisse, gardez-les, nous, on les ramène pas, même si ce sont les femmes et des enfants. On les accepte pas. Donc ça ne fait aucun sens. Donc évidemment, et nous, on a un système judiciaire qui fonctionne, chose qui n'est pas le cas en Syrie, et ce sont des criminels de guerre, ces femmes, et donc elles doivent être jugées sous les lois françaises en France. Donc pour moi, il faut les ramener, il faut le travail qu'il faut faire, même si ça coûte énormément d'argent à l'État. Et surtout, c'est la seule manière de sauver ces enfants.
Mais elles ne reviendront jamais pour se retrouver en prison.
Bah, là-bas, elles sont en train de mourir dans les camps de faim et de soif. Donc je pense que la plus grande partie d'elles monterait quand même dans un avion pour revenir. Évidemment, celles qui ne veulent absolument pas, il y en a quelques-unes qui sont complètement radicalisées, qui continuent à instaurer les lois de la charia sur place, qui coupent encore des mains, qui tuent encore même à l'intérieur de ces camps. Mais c'est primordial de sortir les enfants de ces camps, de les séparer de leur mère quand elles sont trop radicalisées et d'essayer de les sauver. Et cette peur qui a beaucoup été formulée dans les médias que ces enfants sont des ticking time bombs, pour l'instant, c'est pas du tout avéré vrai. Et il y a eu récemment un reportage déchirant de jeunes qui témoignaient qui vit toujours, je pense, dans un de ces camps et qui raconte sa vie, qui raconte à quel point il n'y a aucun espoir pour lui, qu'il a faim, qu'il a soif, qu'il n'y a pas de soins médicaux et qu'il veut absolument sortir de cet enfer et que l'État français ne l'aide pas, ne le sort pas de là. Et c'est un enfant, on parle d'un enfant de 12 ans. Il y en a encore beaucoup sur place. Donc pour moi, c'est pas une question. On a déjà 5 ans de retard, en fait.
Est-ce que le film a été vu dans des zones un peu plus sensibles en dehors de l'Europe, je veux dire? Il y a eu des projections dans des pays arabes, dans des pays qui sont peut-être un peu plus concernés?
Oui, le film a été invité au festival en Tunisie et a très très bien été reçu par la communauté musulmane, par les Tunisiens qui disaient, mais il faut, comme vous dites, il faut que ce film il soit vu ici, partout, il nous concerne presque plus que vous. Je pense qu'il nous concerne tous parce qu'il ne parle pas d'islam, mais de radicalisation, et ça c'est un sujet qui est universel. Donc j'ai été très 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 heureuse de l'accueil qu'a eu le film en Tunisie, donc j'espère qu'il sera montré dans d'autres pays musulmans également.
c'est votre premier long métrage, mais c'est pas votre première expérience dans le film, mais vous avez aussi un parcours assez atypique parce que vous avez fait des études de psychologie, d'histoire de l'art, en littérature. Comment êtes-vous arrivé au cinéma, en fait?
Un peu.
Et la danse contemporaine, oui, pardon, voilà. J'allais oublier ça.
Je suis arrivée au cinéma presque par hasard. J'avais aucun lien avec le cinéma, j'avais un lien avec j'ai essayé tous les autres arts. J'ai essayé le théâtre en Allemagne, j'ai essayé la danse, j'ai joué le violon, j'ai fait des photos, le dessin. Il me manquait toujours quelque chose. Dans la danse, il me manquait la parole. Dans le théâtre, il me manquait le cadre, le choix des cadres, les couleurs. Enfin, il y avait toujours quelque chose qui me manquait. Et comme vous dites, j'ai fait une formation en danse contemporaine. Et au moment où j'avais le niveau pour monter en scène, je me suis dit, mais j'ai pas du tout envie d'être sur scène. Ça me dit rien. Et donc, j'ai pris une caméra. Et mon copain de l'époque, merci à lui, m'a acheté une caméra parce qu'il a remarqué que je faisais des très très bons photos. Il a dit vas-y juste pour voir. Et je faisais un stage à l'Institut Goethe à New York à l'époque, mon premier stage. Et je commençais à filmer mes collègues danseurs dans le métro à New York, dans les ruines d'immeubles. Et je me suis rendu compte que je me sentais extrêmement à ma place. Enfin, j'adorais les filmer, choisir les cadres. Après, j'ai appris à monter mes petits films et j'adorais ça. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai trouvé le cinéma, même si j'avais une peur de la technique parce que je la connaissais pas. Et donc, je suis allée à Paris. Après, je me suis installée pour faire du cinéma. Et j'ai travaillé notamment en tant qu'assistante mise en scène sur les plateaux pendant presque 10 ans pour apprendre de réalisateurs très, très différents, de jeunes femmes comme Katel Kileveré, Anna Novian et de réalisateurs plus connus comme Roman Polanski ou Schlöndorff. Et c'était intéressant, cette école aussi, sur le tas, de voir comment travaillent ces gens et d'apprendre de cette manière le métier très, très pratique.
Oui, est-ce que vous avez des projets? Est-ce que vous travaillez déjà sur un prochain film?
Oui, je travaille sur deux autres films en ce moment, que je vois un peu comme un triptyque avec Rabia, parce que les deux autres films sont aussi des portraits de femmes qui, d'une manière à chaque fois un peu différente, réagissent ou ont développé une sorte de stratégie de survie face aux violences du monde actuel. Et là, je travaille sur un film sur les personnalités multiples. Donc, une femme qui... Donc, ça se parle plutôt de la...
Ça, c'est la psychologue qui...
Voilà, c'est ça. Des maladies mentaux qui, pour moi, ne sont pas des maladies, mais des stratégies de survie qui fait que très souvent, ces gens-là sont des sortes de super-héros. Et des gens qu'on devrait écouter, et qu'on devrait respecter et les faire parler au lieu de les enfermer. Et l'autre film parle de désir féminin, mais je peux pas trop encore parler parce que j'ai pas encore exactement trouvé mon histoire.
Am ascultat-o pe regizoarea germană Marieke Engelhardt. Lungmetrajul său de debut, Rabia, a fost prezentat anul acesta la București în cadrul Festivalului Filmului Francez. El a avut o nominalizare la premiile César pentru cea mai bună revelație feminină, pentru Megan Norton. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine luni dimineață.